À la une en Israël ce matin, on va revenir sur la situation sécuritaire avec notre invité Raphaël Jérusalmi à votre micro, Lise.
Raphaël Jérusalmi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes ancien officier des renseignements militaires de Tsahal. Raphaël, ce matin, tout le monde se demande, avec l'expiration de l'ultimatum de Donald Trump cette nuit, qu'est-ce qui va se passer pour la suite de cette guerre ?
Eh bien, je me le demande aussi. En tous les cas, les Israéliens ont communiqué à la Maison-Blanche et au Pentagone une liste de cibles critiques à donc attaquer si jamais Donald Trump tient sa promesse, tient sa menace d'attaquer effectivement les infrastructures essentielles au régime des Mollahs en Iran cette nuit. Reste à savoir si aux politiques, effectivement, Donald Trump tiendra parole ou s'il va changer d'avis ou reporter l'échéance. On a déjà vu que les ultimatums de Donald Trump n'étaient pas toujours des ultimatums et qu'il se défilait au dernier moment. Donc très difficile de le savoir. Les Israéliens, eux, sont prêts et aimeraient passer à l'action et détruire ces cibles absolument essentielles à continuer à financer le régime des Mollahs, les gardiens de la Révolution.
Alors, évidemment, il y a plusieurs propositions et contre-propositions. Raphaël, hier, donc, les États-Unis avaient donné leurs conditions. L'Iran a renvoyé une contre-proposition dans laquelle ce qui semble important, visiblement, pour Téhéran, c'est d'arrêter les frappes contre son proxy, le Hezbollah.
Oui, entre autres, les frappes aussi contre eux-mêmes, puisque la nuit dernière, une frappe spectaculaire des Américains a éliminé un grand nombre d'officiers supérieurs des gardiens de la Révolution. Donc évidemment, il est naturel de voir dans ces négociations les exigences des Iraniens. Ils essayent de tirer un maximum. Ils sont des champions négociateurs d'ailleurs, mais je voit très très mal un accord se profiler dans les prochaines 24 heures. Les écarts entre les deux, américains et iraniens, sont immenses.
Alors, effectivement, Benjamin Netanyahu s'est entretenu déjà ce week-end, Raphaël, avec Donald Trump, en lui disant que ça serait une erreur tout de même de faire un accord. Et on sent bien que c'est ce que disent aussi les experts américains et israéliens. Parce que visiblement, Téhéran continue de gagner du temps et n'a pas accepté qu'il est en train de perdre la guerre.
Absolument. Téhéran ne concédera jamais la défaite. Et si accord il y a, ce sera un accord pour juste retarder l'élan l'offensive et freiner l'élan israélo-américain. Il n'y a aucune velléité chez les gardiens de la Révolution de signer un cessez-le-feu. Il faut bien comprendre que dans cette situation, le problème principal en ce moment étant le blocage du détroit d'Ormuz, la plus grande responsabilité revient à la communauté internationale et spécialement à l'Union européenne, c'est-à-dire le fait que des pays, par exemple, comme la France, s'oppose à une réouverture forcée militaire du détroit d'Ormuz et ne fasse pas le boulot, ils sont véritablement les vrais coupables de la situation actuelle.
Trump et même Marco Rubio ces derniers jours. Oui, Raphaël, on vous entend. Ces derniers jours, Donald Trump et même Marco Rubio fustigeaient la lâcheté des Européens et menaçaient même en représailles après cette guerre de quitter l'OTAN. Donc ça va avoir des conséquences, cette inaction des Européens dans cette guerre.
Il faut bien l'espérer. Moi, personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose, ce blocage du détroit d'Ormuz. C'est très positif. Ça force effectivement les pays développés à réaliser enfin, une fois pour toutes, s'ils n'avaient pas déjà fait, à quel point ils sont dépendants énergétiquement des pays producteurs de pétrole et de gaz naturel, une dépendance qui dure depuis des années, qui a enrichi ces pays producteurs à coups de centaines de milliards. Alors qu'il y a des alternatives qu'il faut chercher, qu'il faut développer, et puis surtout ne pas céder au chantage, car aujourd'hui il y a un chantage énergétique contre le monde entier, et c'est complètement aberrant de voir à quel point le monde ne se défend pas, ne se prémunit pas de ce chantage énergétique, et à commencer par l'Europe, et j'en veux pour principal symptôme le fait que cette semaine, avec la Russie et la Chine, la France, c'est le seul pays d'ailleurs, la France a voté contre une résolution proposée à l'ONU d'intervention militaire dans des détroits d'Ormuz. La France a voté avec la Russie et la Chine, protégeant en fin de compte la stratégie iranienne du blocage des détroits d'Ormuz. C'est absolument aberrant.
Effectivement, c'est pas logique. On en convient, Raphaël. Alors, il y a autre chose sur laquelle je voulais votre avis ce matin, c'est ces révélations du Jérusalem Post, selon lesquelles les services de renseignement ukrainiens assurent que la Russie a transmis à l'Iran la liste des infrastructures énergétiques stratégiques en Israël pour permettre à Téhéran de planifier des frappes de précision. Premièrement, est-ce que vous croyez que c'est vrai que la Russie a transmis ça, Raphaël? Et deuxièmement, est-ce que on pourrait voir effectivement des coupures massives d'électricité en Israël et voir un effondrement du réseau électrique dans l'État hébreu?
Alors, sur le plan de si les Russes fournissent de l'information aux Iraniens, oui. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils partagent avec les Iraniens les renseignements qu'ils ont sur Israël, mais il est certain que Moscou donne un coup de main à Téhéran sur le plan du renseignement. Oui, il est possible qu'il y ait des coupures de courant importantes en Israël. Il y a déjà eu des tentatives sur le plan cyber par le passé des hackers iraniens de s'en prendre aux sources d'énergie en Israël, que ce soit des blocages d'hôpitaux, des blocages électriques. On a même tenté de saboter l'alimentation en eau potable. Donc là, sur le plan cyber, mais aussi sur le plan d'attaque de fournis de missiles vers les centrales électriques israéliennes, on peut s'attendre à un véritable problème. Israël y est préparé. Israël a certaines alternatives, mais il est prévu effectivement que dans ce cas-là, il y aurait des coupures importantes d'électricité en Israël.
Alors, c'est vrai que c'est toujours un petit peu inquiétant, Raphaël. Est-ce que aujourd'hui on peut empêcher cela?
Pas véritablement. Sur le plan du cyber, il y a une vigilance extrêmement importante des Israéliens qui fait qu'ils bloquent 90 à 95% des attaques cyber. Je rappelle qu'Israël est le pays au monde qui est le plus attaqué sur le plan informatique, et que les Iraniens disposent de centaines de hackers qui ne travaillent jour et nuit qu'à attaquer Israël. Sur le plan maintenant d'un impact de missile sur, par exemple, la centrale électrique de Césarée, qui est la plus importante, près de Hadera, là, s'il y a un impact important d'un missile qui toucherait cette centrale, on aurait effectivement un dégât qui créerait des graves problèmes d'approvisionnement en électricité. C'est la raison pour laquelle ces centrales électriques sont protégés par des batteries du Patriot et du Dôme de fer.
Effectivement, on a vu déjà des tirs de missiles iraniens les viser. On l'a vu beaucoup aussi contre Ben Gurion. Pourquoi est-ce que ça reste tellement la cible des Iraniens? Ça sera ma dernière question, Raphaël, cet aéroport de Ben Gurion.
Alors, bien sûr, d'un côté, c'est symbolique, puisque c'est l'aéroport, c'est en fait la ligne de vie, là, le contact d'Israël avec le monde extérieur, l'échange de passagers qui viennent et de ceux qui repartent. C'est donc sur un plan symbolique, mais l'aéroport de Ben Gurion demeure aussi, de même qu'une centrale électrique ou d'autres infrastructures civiles, une infrastructure civile importante pour l'économie et le bon fonctionnement du pays, ne serait-ce que si vous prenez le dégât économique causé par la chute du tourisme Israël, c'était une grande partie de ses revenus provenait du tourisme, surtout de tourisme venant de l'étranger, de juifs de la diaspora, de pèlerins chrétiens se rendant à Jérusalem, etc. Aujourd'hui, ces revenus-là sont pratiquement tombés à zéro. Et c'est donc en plus donc d'une frappe symbolique, une frappe véritablement qui affaiblit l'économie israélienne.
Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes ancien officier du renseignement militaire et par ailleurs écrivain et qu'on peut lire un certain nombre de vos ouvrages, notamment Tribune de guerre qui est le dernier en date. Bonne journée à vous et à très vite.
Merci.